tous les mardis de l'environnement. La tribune co-organisée par la SER, la Société européenne des réalisateurs de l'environnement, et par l'Institut océanographique Paul Ricard, et qui traite des grandes questions environnementales depuis 25 ans. Tous les mardis de l'environnement sont cette année volontairement consacrés aux océans, à l'océan. Alors pourquoi ? L'océan est la clé de notre avenir, c'est l'air que l'on respire, c'est le climat, c'est la biodiversité, c'est tout ce que l'on ne sait pas aussi. Or, face à cette immensité et aux enjeux tout autant immenses, eh bien, un trou, un vide juridique semble-t-il. L'homme a l'habitude de s'organiser en nation, bien moins en communauté internationale. Ne plus s'organiser en État, mais en communauté internationale, cela s'appelle la gouvernance. Tel était le thème de ce premier mardi de l'environnement de l'année. Pour nous l'expliquer, Serge Segura, premier ambassadeur chargé des océans. Serge Segura qui a donc endossé une fonction tout à fait inédite au Quai d'Orsay.
Alors effectivement, je suis le premier à occuper ces fonctions. C'est une fonction qui a été créée en septembre 2015 au sein du Quai d'Orsay. Ça correspond à une prise de conscience au Quai d'Orsay, donc au ministère des Affaires étrangères, du fait que les océans, ou l'océan, comme disent à juste titre les scientifiques, étaient devenus un enjeu de politique internationale et que ça n'était plus simplement l'endroit où il y avait des rivalités, où des États pouvaient coopérer, où ils pouvaient avoir des différends. L'océan en lui-même était devenu un objet de la relation internationale. Ça amène une réflexion un peu différente dans la structure de notre diplomatie, comme de la diplomatie mondiale. Il y a toute une série de rendez-vous internationaux auxquels il faut être préparé, qui font référence à toute une série de réflexions, de connaissances et d'évolutions relatives aux océans. Et donc, ça justifiait pleinement la création de cette fonction.
Serge Segura, ambassadeur chargé des océans depuis la COP21, depuis la veille. Oui, l'océan est enfin entré dans les négociations sur le climat. Alors, cette gouvernance, qu'en est-il de ce Far West ?
Il a un statut, il a une sorte de constitution qui est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est une convention importante, assez étendue de par les thèmes qu'elle traite, qu'il a fallu à peu près 20 ans pour négocier, c'est vous dire la difficulté, et qui aujourd'hui fixe en quelque sorte la quasi-totalité des règles qui régissent les activités de l'homme sur l'océan.
Que dit cette constitution, qu'est la Convention de Montego Bay ? Un joli pavé juridique qui définit les grandes typologies de zones maritimes. On connaît surtout les zones économiques exclusives, 370 km maximum au-delà des lignes de base. Et puis il y a toutes les autres, la mer territoriale, les détroits internationaux. Mais au-delà de cette zone économique exclusive, c'est ce que l'on appelle la liberté. Autrement dit, le droit de chaque pays qui s'applique à nouveau. On pense au transport maritime et pour France Nature Environnement, en l'état, c'est tout de même le fouillis. François Pichon, coordinateur du réseau océans, mers et littoraux de France Nature Environnement.
Nous, ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de règles qui régissent la gouvernance des océans, mais c'est extrêmement compliqué d'y voir clair finalement entre toutes ces règles, parce qu'on a une multiplicité d'instances, on a une multiplicité de législations, mais au final, c'est un peu le fouillis, c'est-à-dire que le droit n'est pas forcément bien appliqué, et dans les instances, la société civile, par exemple, n'est pas forcément bien représentée, en tout cas, ce n'est pas uniforme entre toutes les instances. Donc finalement, on est un petit peu perdu entre tout ce qui régit le droit de la mer. En plus, la loi qui régit le droit de la mer, c'est la Convention de Montego Bay, qui a maintenant plus de 30 ans, qui du coup ne traite plus les enjeux d'aujourd'hui, par exemple la pollution plastique, tout ce qui concerne le transport maritime massifié. Donc c'est compliqué finalement de suivre la législation internationale sur le droit de la mer et de faire respecter cette réglementation en tant que justement association de protection de l'environnement, parce qu'on est un petit peu perdu entre toutes ces législations et on a l'impression finalement que le droit n'est pas respecté.
Fouiller sur le terrain d'une convention qui a un peu jauni, estime la FNE, en même temps, à partir d'une copie blanche, prendrait encore plus de temps. C'est ce qu'avait dit en tous les cas Michel Rocard, Serge Segura.
Michel Rocard avait raison. Il faut continuer avec cette convention parce qu'aujourd'hui, compte tenu de ce que l'on sait de la société internationale et des relations entre États et des intérêts marqués par les États sur les océans, on est loin de penser qu'il serait possible de négocier un nouvel accord d'une telle ampleur. Mais alors c'est vrai que la convention, elle commence à dater un peu. Elle a maintenant 30 ans. Si vous vous rappelez qu'il a fallu 20 ans pour la négocier, ça nous remonte un peu plus loin dans le temps. Et les connaissances scientifiques, les capacités techniques des industries se développent. Et il y a des activités auxquelles on ne pensait pas il y a 20 ans et auxquelles on doit faire face aujourd'hui. On doit les réglementer. Et ces activités sur les océans ou sous les océans se déroulent de plus en plus loin des côtes. Donc de plus en plus loin d'une compétence, pour parler simplement, d'une compétence des États. Et donc il faut réglementer tout ça. C'est la raison pour laquelle il y a un processus qui a été lancé à New York, on y réfléchit depuis une dizaine d'années. Il a été lancé sérieusement l'année dernière, qui a pour objet de compléter la convention dite de Montego Bay, cette fameuse convention. Donc on ne va pas la modifier, on va simplement la préciser, la compléter sur un thème très important et vaste, qui est celui de la protection de la biodiversité et de l'utilisation durable de cette biodiversité en haute mer. En haute mer, je précise.
Montego Bay jusqu'à 370 km de la côte, au-delà la fameuse liberté des États qui ne suffit donc plus, et à nouveau le Far West donc, d'où l'ONU, les conférences de New York sur la biodiversité, conférences préparatoires ce mois de février à la conférence annuelle au mois de juin prochain. Si on se résume en haute mer, océan et biodiversité, eh bien New York, océan et climat depuis l'appel de Paris, c'est la plateforme Océan Climat qui est aux manettes. Ludovic Frère-Escoffier, coordinateur de la plateforme Océan Climat.
L'océan, c'est un petit peu l'assurance vie du climat. Un océan en bonne santé, c'est un climat protégé. L'océan est essentiel dans les échanges gazeux. Il va capter 25% du dioxyde de carbone qui est émis par l'homme. Il va produire 50% de l'oxygène que nous respirons sur cette planète. Et au-delà de ça, quand il y a un effet de serre dû aux émissions de gaz à effet de serre, l'océan capte près de 90% du surplus d'énergie. Donc d'un point de vue physico-chimique, il est absolument essentiel. Mais l'océan, c'est un lieu où on va trouver un grand nombre d'activités économiques, le transport maritime, la pêche, bien sûr, mais également l'exploitation des fonds marins. Donc toutes ces activités économiques, il va falloir avoir des actions pour qu'il y ait des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, et en même temps des actions pour l'adaptation. Ces problèmes, il faut les traiter. Et pour les traiter, il faut mettre en place des projets qui reposent sur la science, qui va aider à bien identifier les axes de recherche et d'action, et travailler en collaboration avec les acteurs de terrain pour passer à l'action. La plateforme Océan et Climat a permis l'intégration de l'océan dans l'accord de Paris, et a proposé un rapport au GIEC avec d'autres pays, Monaco qui l'a proposé, et également la France et d'autres pays qui ont soutenu cette initiative pour qu'il y ait un rapport océan du GIEC. Et à la COP22, l'océan était au cœur de l'action. Maintenant, la plateforme Océan et Climat propose une alliance d'initiatives Océan et Climat pour faire émerger tous ces projets et surtout les accompagner, les valoriser.
Océan et climat, océan et biodiversité, océan et tout. Serge Segura.
On ouvre toute une série de nouveaux chapitres, mais les ressources génétiques, par exemple, vont faire partie de ce nouveau chapitre parce que Nagoya a traité des ressources génétiques, c'est vrai, mais les ressources génétiques marines répondent à des particularismes aussi bien techniques, physiques, scientifiques, qui obligent à réfléchir à un régime juridique particulier. Donc on travaille sur ces ressources génétiques marines, mais c'est également un futur traité qui devrait parler des outils qui permettent de protéger la biodiversité, et au premier rang desquels on réfléchit aux aires marines protégées. Créer une aire marine protégée dans une zone sous juridiction d'un État, près d'une côte ou quoi, c'est quelque chose qu'on sait à peu près faire, à peu près, et qu'on sait à peu près faire fonctionner. En haute mer, c'est tout à fait différent. Il y a le contrôle, il y a l'information scientifique qu'il est important d'avoir avant d'établir le cahier de gestion, en quelque sorte, de cette aire marine. Donc il y a toute une série de chapitres comme ça qui sont nouveaux et qui sont passionnants, mais pour lesquels il faut se dépêcher un petit peu parce que la science et la technique avancent vite.
Et oui, l'urgence face à la lenteur, la pesanteur des négociations. Pollution anthropique, aujourd'hui emblématique. Le plastique, bien sûr. Michel Ignette, expert des océans.
C'est vrai qu'on se rend compte, et c'est relativement récent comme découverte, qu'il y a maintenant du plastique rémanent dans l'océan. Et plus on va en chercher, à quelque endroit que ce soit, y compris en profondeur, on en trouve. Donc là, on commence à s'inquiéter réellement en se disant quel est le devenir de ce plastique, parce qu'on ne le sait pas. On sait que progressivement, il se dégrade en particules de plus en plus petites. Et puis quand on arrive à des très petites particules, ça devient quoi? Alors effectivement, actuellement, on pense que ça rentre dans la chaîne alimentaire. Il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Mais sinon, si on parle de pollution, il y a de multiples sources de pollution, bien entendu, qui sont distribuées géographiquement de manière très, très diverse. Alors, Une des sources un peu gênantes, effectivement, est l'enrichissement en sel nutritif très très importante par l'essivage des sols, par arrivée donc d'engrais notamment, et qui vont entraîner le fait que le plancton végétal va bénéficier donc de ces sources de matières premières minérales et avoir un développement très important. Alors on pourrait s'en réjouir par certains côtés parce que ça augmente la productivité, mais ça peut être anarchique et ça peut déséquilibrer des écosystèmes, et on peut avoir notamment des productions d'algues qui vont être toxiques, qui vont rentrer donc dans la chaîne alimentaire et aller éventuellement jusqu'à l'homme. D'où un certain nombre d'interdictions, au moins temporaires, de consommation de coquillages filtreurs. Donc finalement, il y a énormément de sources de pollution différentes. Il y a des motifs d'inquiétude par rapport à des produits chimiques dont on sait maintenant qu'ils ne se dégradent pas au cours du temps, donc ils vont s'accumuler et s'accumuler éventuellement au cours de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que les prédateurs de haut niveau vont avoir des concentrations qui les rendent d'ailleurs à la limite inconsommables. Pour les métaux lourds, c'est la même chose. Si on parle du mercure, par exemple, on a un certain nombre d'animaux dont on déconseille la consommation, thon, marlin. Et donc, on arrive finalement à des concentrations où on déconseille aux gens de consommer certains produits de la mer. Bon, c'est quand même très, très dommage parce que, effectivement, les protéines issues du milieu marin sont quand même une source de protéines importante pour l'humanité. Donc, si on arrive à déconseiller la consommation, c'est quand même la preuve de notre échec à avoir eu un comportement raisonnable.
Mercure, surexploitation, les risques égalent la convoitise et la négligence humaine. L'ambassadeur chargé des océans a de quoi s'occuper.
Le risque important, je ne sais pas si on peut faire une hiérarchie dans les risques, puisque poussés à l'extrême, ces risques sont mortels pour l'humanité. C'est assez simple. Je dirais par exemple, vous avez parlé de la relation entre le climat et l'océan. Si l'océan n'est plus capable, à cause de nous, de jouer son rôle de modérateur des changements climatiques, l'avenir de l'humanité est en jeu. Si l'océan n'est plus capable, à cause de nous, de jouer son rôle pour apporter des ressources nutritives à une grande partie de l'humanité, l'humanité est menacée à moyen ou long terme. Si l'océan meurt, c'est-à-dire si la biodiversité de l'océan meurt, nous aurons devant nous une sorte d'immense égout qui ne nous permettra plus de vivre normalement. Donc je ne sais pas si on peut faire une hiérarchie, il faut s'attaquer à tous les problèmes sérieusement. Ils sont tous interconnectés. C'est pour ça que les scientifiques parlent de l'océan.
Prenons un exemple. Vous êtes chercheur, vous découvrez que les gorgones des Caraïbes soignent le sida. À qui appartient votre découverte? Bleu Nguyu, docteur en droit, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Bretagne occidentale.
La ZT, qui est un des premiers antirétroviraux commercialisés sur le marché américain d'abord et ensuite en Europe. Et c'est à partir de molécules issues de ces gorgones de la Caraïbe qu'ont été développées ce médicament et un ensemble de médicaments, donc aussi donc lutte contre le sida, l'herpès. C'est les mêmes conditions dans le respect du droit de la propriété intellectuelle et d'un accord en fait qui est associé aux accords de l'OMC. Donc il faut que l'application soit nouvelle, inventive et susceptible d'implications industrielles. Alors c'est parfois, c'est pas réellement le cas. Ce qui est d'ailleurs critiqué dans la brevetabilité du vivant, c'est que la nouveauté, elle est pas perceptible. Mais généralement, c'est les mêmes conditions. Et moi, j'ai étudié un peu le travail du chercheur en botte sur le terrain, comment il va récolter, et donc à quelles règles de droit il est soumis selon l'espace où il va prélever, si c'est dans des espaces nationaux ou en haute mer. Par contre, il y a un régime, une partie de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui porte sur la recherche scientifique marine. Un régime un peu nouveau, original, parce qu'il prévoit des obligations à la charge des États, et non pas des chercheurs étrangers qui viennent dans leurs espaces marins faire de la recherche. Et entre autres obligations, il y a l'obligation de favoriser la recherche scientifique, de faciliter du coup l'octroi d'autorisation pour des chercheurs étrangers, et aussi l'obligation de publier et de diffuser les résultats de la recherche scientifique, ce qui rentre en conflit potentiel avec des droits de propriété intellectuelle qui supposent donc de garder secret un temps les résultats de la recherche et ensuite de les protéger en demandant un brevet, par exemple. J'ai eu le cas, par exemple, des petits pays insulaires, donc des chercheurs français qui sont venus observer les écosystèmes coralliens. Et après, le but, c'est aussi d'avoir un retour pour les pays d'origine et puis avoir accès aux résultats de la recherche étant fondamentale et pourquoi pas appliquée.
La propriété intellectuelle, voilà qui ne préoccupe pas beaucoup Donald Trump. Trump, candidat, avait déclaré vouloir reprendre la conquête spatiale. Oui, la tête en l'air avec l'argent qu'Obama avait dédié à la recherche sur le climat. Trump, président, une inquiétude majeure au regard des enjeux réels.
Les contextes internationaux, par définition, sont toujours compliqués, malheureusement. Alors, vous parlez des États-Unis. C'est bien difficile de savoir quelles sont les positions qui vont être prises par les délégations américaines dans différentes instances internationales. Vous avez vu que les choses ne sont pas encore tout à fait fixées, qu'il y a eu beaucoup de déclarations faites pendant la campagne électorale dans un programme. Il y a des choses qui ont déjà été décidées et dont on voit qu'elles ont du mal à s'appliquer. Il faut aussi faire confiance au fait que les États-Unis sont une grande démocratie avec des contre-pouvoirs, avec une opinion publique qui peut être consciente de la nécessité de penser à l'environnement et de penser à l'océan et au climat. Et puis, bon, un gouvernement quel qu'il soit, surtout un gouvernement aussi important, enfin d'un pays aussi important que les États-Unis, se trouve confronté à toute une multiplicité de décisions à prendre qui ne font pas toutes l'objet, Dieu merci, je dirais, d'une grande publicité. Et donc on peut espérer que dans la négociation, les États-Unis adopteront des positions qui seront moins publiques, mais qui sont plus réalistes et qui nous permettront de continuer à négocier.
La FNE est quant à elle pour une OMC des océans, confère pourtant la volonté, elle aussi compliquée, d'une OME, d'une Organisation mondiale de l'environnement.
Nous, en fait, on a deux propositions. Alors, d'une part, que l'Europe se saisisse de cette problématique de la gouvernance, en essayant justement de réguler déjà sur le territoire européen la gouvernance des océans, en essayant d'avoir une grande instance qui gère toutes les questions des océans, en essayant d'uniformiser au maximum le droit, par exemple sur les aires marines protégées. On a des spécificités qui sont franco-françaises, puis après, on a de la législation européenne, puis la législation internationale. Donc finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'y perd un petit peu. Donc voilà, déjà que l'Europe se saisisse de ces questions-là pleinement. Et puis ensuite, nous, on prendrait, alors ça relève peut-être du rêve, mais une organisation internationale des océans qui légiférerait sur les questions des océans, qui réunirait des comités scientifiques, un petit peu sur le même modèle d'ailleurs que l'Organisation mondiale du commerce.
En tous les cas, au chapitre des idées reçues, l'Europe ne fait rien ou bien n'a pas de poids. Serge Ségura.
L'Europe a un poids. Quel que soit son état, hein. Et puis il ne faut pas dramatiser l'état de l'Europe, hein. Il est de bon ton en Europe de battre sa coulpe et de se regarder un peu le nombril en disant « mon Dieu, nous ne sommes pas capables de faire des choses importantes », ce qui est tout à fait faux. L'Europe a un poids, hein. Si vous allez dans de nombreux pays en développement, par exemple, vous constaterez que l'Europe reste le premier donateur mondial pour le développement, ce qui est quand même pas rien, quel que soit le continent, hein. C'est un peu à tous ces états-là qu'il faut penser aujourd'hui quand on parle des océans. Donc l'Europe a un poids. L'Europe, c'est la première flotte de pêche au monde, ce qui n'est pas rien non plus. Elle s'est engagée dans des processus assez sophistiqués et qui donnent des résultats contre la pêche illicite sur tous les océans. Et elle a les moyens, par le système d'interdiction de commerce, d'interdiction de débarquement, elle a les moyens de lutter contre la pêche illicite et elle le fait. L'Europe a des capacités scientifiques qui ne sont jamais que l'ajout des capacités nationales et qui lui permet d'être une grande puissance scientifique. L'Europe a un seul problème, mais qui n'est pas mineur, c'est le manque de confiance en soi et peut-être le manque de confiance en elle de ces différentes populations qui la composent.
Autre idée un peu fausse, les politiques ne comprennent rien à l'environnement, voire s'en moquent, et là, confèrent certaines campagnes électorales.
Je pense que c'est erroné. D'abord, c'est pas pareil dans tous les pays. Ensuite, c'est un peu dur pour les politiques de dire qu'ils sont opposés à la protection de la nature. Les politiques sont par nature attentifs à tous les bruits qui courent, qu'ils soient plus ou moins fondés. C'est leur rôle un petit peu, hein. Si vous prenez les industriels, par exemple, en France, moi, depuis que je m'occupe de un peu tout ça, j'ai été très agréablement surpris de constater à quel point les industriels français ont conscience de la nécessité de préserver l'océan. Parce qu'il me préoccupe, moi, c'est la rapidité à laquelle va la science. Je vous donne un exemple. Il y a encore 5 ans, personne ne disait que dans les champs de nodules polymétalliques, il y avait une grande biodiversité. Comme il y a 20 ans, tout le monde pensait qu'à partir du moment où il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus de vie possible. Donc les connaissances scientifiques vont très vite, elles sont encore très parcellaires, c'est les scientifiques eux-mêmes qui le disent. Mais je vois que nous, diplomates, nous, juristes, on a déjà du mal à les rattraper. Donc on a un énorme travail à faire. Et les politiques doivent donner les impulsions. C'est leur rôle, c'est leur travail. Ils le feront si les opinions publiques sont bien informées, si les opinions publiques sont bien conscientes des risques et si les opinions publiques sont bien conscientes des solutions possibles. Et je crois beaucoup au rôle des opinions publiques, de la presse, pour une meilleure prise de conscience par les politiques du rôle de l'océan, de la nécessité d'avancer le plus vite possible.
En résumé, la vraie politique, le vrai travail d'ambassadeur consiste donc à voir le verre à moitié plein, en faisant en sorte de le remplir encore. En cela, il est vrai que l'océan innove totalement, puisque les relations internationales sont essentiellement basées sur les nations et sur une culture très ancrée du rapport de force à l'échelle internationale. Un laboratoire en grandeur nature, donc, que l'océan.